France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Fanny Richer, Anouk Millot et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain nous emmène en Bosnie et en Serbie. Dans un reportage pour le Figaro Magazine, le journaliste Nicolas Skopinski a cherché à comprendre si la passion locale pour le basket pouvait favoriser l'union et la réconciliation entre communautés 30 ans après la fin de la guerre. Et puis, dans la table ronde d'actualité, nous reviendrons sur la politique de pression maximale exercée par les États-Unis sur le Venezuela. Après les frappes sur des navires soupçonnés de transporter de la drogue, le pays est désormais sous le coup d'un blocus pétrolier. Le pouvoir de Nicolas Maduro peut-il y survivre? Nous en discuterons avec nos invités. Thomas Posado, maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen et chercheur au sein du laboratoire ERIAC. Et Fabrice Andréani, chargé de cours à l'université Lumière Lyon 2. Une discussion co-animée comme chaque vendredi avec notre partenaire du journal Le Monde, Marc Semo.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Nicolas Skopinski.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes journaliste indépendant et c'est pour le Figaro Magazine que vous vous êtes rendu avec le photographe Jérémy Lampin en Bosnie et en Serbie. Le point de départ de votre reportage, c'est une photo, un cliché pris en 2020 à Orlando aux États-Unis et qui a fait le tour du monde. Nous sommes dans les locaux de la NBA, la célèbre ligue de basketball. On y voit 9 jeunes hommes réunis autour d'une table, 9 joueurs professionnels, tous originaires des Balkans. Il y a Nikola Jokic, considéré comme le meilleur joueur du monde, Yusuf Nurkic, le joueur le plus populaire de Bosnie, le Slovène Luka Doncic, le Croate Ivica Zubac, des champions connus et admirés dans leurs pays respectifs. Et vous avez essayé de comprendre si leur amitié, qui est ici affichée sur cette photo, pouvait incarner une sorte d'union, de réconciliation de leurs communautés respectives 30 ans après les accords de Dayton qui mirent fin à la guerre en Bosnie. Nicolas Skopinski, est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire un petit peu plus sur cette photo de 2020? Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances précises elle a été prise et comment elle a circulé des États-Unis jusqu'aux Balkans?
Oui, bien sûr. Alors, il faut se remettre dans le contexte en 2020. C'est la crise sanitaire à cette époque-là. Et donc, les rencontres de NBA ont été stoppées dans un premier temps. Il a été décidé, au final, de créer une bulle sanitaire. Donc, c'était la fameuse bubble ça s'est déroulé à Orlando, à Disney World. Et dans ce contexte, il faut se souvenir également qu'il y avait le mouvement Black Lives Matter. Donc les rencontres ont de nouveau été menacées. Et à ce moment, en fait, les joueurs sont enfermés, tous loin de leur famille, un peu en perdition, puisqu'il n'y a pas de supporters, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment une ambiance presque dystopique, on a envie de dire. Et ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que, alors que chaque joueur est un peu enfermé dans sa chambre, ils sont dans des chambres d'hôtel, eh bien, il y a les joueurs des Balkans qui vont se réunir. Alors, ça commence un premier soir avec principalement quelques Serbes, également un Monténégrin qui était avec eux. Et ils vont commencer à boire des verres ensemble, comme s'ils étaient au pays, en fait, tout simplement. Et la soirée va durer longtemps. Ils vont mettre des musiques de leur pays, des musiques vraiment des années 80, des morceaux des années 90. Et la soirée va dégénérer entre guillemets, et en tout cas va faire grand bruit au sein de la bubble. Et donc les autres joueurs issus des Balkans, il y a de nombreux joueurs, hein, il y en a plus à l'époque, je crois qu'ils étaient 17 au sein de la NBA, apprennent ça et ils parlent la même langue. Hein, dans toute la région des Balkans, on parle serbo-croate. Et donc ils se réunissent à de nouveau sur les jours qui suivent. Et donc, il y a vraiment cette communauté qui se recrée. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est un moment de grande tension. On ne sait pas ce qui se passe avec le Covid à l'époque. Et là, on a des gens qui viennent de loin, qui ont un passé très tourmenté dans les années 90. Et là, ils se réunissent. Et donc, c'est un peu un message d'espoir qu'on voit. Et surtout qu'il y a l'un des joueurs, le Bosniaque Youssouf Nurkić, qui relaie cette photo. Alors, il faut imaginer que cette photo, il donne son téléphone à l'un des plus grands entraîneurs de Travis Scott de la NBA. Donc cet entraîneur prend la photo, Youssouf Nurkić la publie comme les autres, et là il la tague avec tous les drapeaux et dit « Nous sommes les Balkan Boys ». Et donc cette appellation de Balkan Boys, elle va être reprise par la presse américaine et avec les réseaux sociaux. Donc il faut se rendre compte qu'en fait ces 9 joueurs-là, et il y en a d'autres après qui les ont rejoints, mais sur cette photo ils sont effectivement 9, il faut imaginer qu'on a quasiment 16 millions de followers juste sur Instagram. J'ai pas compté les autres réseaux sociaux. C'est à peu près environ 90% de la population des Balkans. Donc c'est nécessairement, la photo elle va faire grand bruit. Des reporters américains vont faire des articles dessus très détaillés. C'est pour ça qu'on sait, on connaît la playlist qu'il y a eu. Ils ont interviewé les gens qui travaillaient dans le restaurant. On sait ce qui s'est passé dans cette soirée. Les Balkan Boys, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, on beaucoup ri de cette soirée. Et en fait, ça a délivré une sorte de message d'espoir à ce moment-là. Donc notre idée, c'était de voir si on était toujours dans la logique de l'espoir. Est-ce qu'il fallait juste y lire un espoir pour le futur ou est-ce qu'il fallait y voir autre chose? C'est pour ça qu'on est allé sur leurs traces.
Et on rappelle que dans la NBA, qu'on prend de très nombreux de joueurs, vous le disiez, qui viennent des Balkans, qui sont aujourd'hui à un très haut niveau, qui sont de véritables superstars et aux États-Unis et dans leurs pays respectifs. C'est important de rappeler l'importance du basket alors dans les Balkans, mais aussi en ex-Yougoslavie. Je veux dire, historiquement, à l'époque de l'ex-Yougoslavie, c'était déjà un jeu très populaire. Est-ce qu'on sait comment et pourquoi les Yougoslaves se sont pris de passion pour le basket?
Oui, absolument. En fait, ça peut paraître un petit peu surprenant puisque le basket est éminemment américain dans sa culture, dans ses codes. Mais en fait, c'est à partir de 1948, donc après-guerre, dans la Yougoslavie de Tito, va se créer la Fédération Yougoslave de basket. Et cette fédération, en fait, elle va permettre de faire une sorte de soft power. C'est-à-dire que la Yougoslavie, quand elle se lance dans le pari du basket, c'est 48, c'est le moment de la rupture entre Belgrade et Moscou. Et la Yougoslavie est beaucoup plus ouverte vers l'Occident que l'URSS. Et donc, les joueurs qui vont être formés en Yougoslavie, eh ben, ils vont aller dans les clubs européens, ils vont aller se montrer ailleurs et donner une image de la Yougoslavie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus moderne. Donc, la Yougoslavie, en fait, va beaucoup investir dans les infrastructures. Il va y avoir de nombreux terrains qui seront créés, de nombreuses salles. Et il y a une culture basket qui va se créer là-bas. Alors, il s'avère qu'en plus, génétiquement, ils ont de la chance puisqu'ils ont très souvent de très grands joueurs, ce qui est l'une des conditions pour être un bon basketteur. Mais en fait, cette formation, c'est vraiment ce plan hein, de l'État yougoslave dans le basket, eh ben, il va prendre vraiment son plein essor à la fin des années 60, 70, puisqu'on a vraiment des générations de champions qui vont arriver. J'avais retrouvé le palmarès de la Yougoslavie, c'est assez sidérant. Entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la Yougoslavie, ils ont gagné, en titre européen, ils en ont gagné 12. Au niveau olympique, ils ont eu une médaille d'or, 4 médailles d'argent. Au niveau mondial, ils ont eu 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent. Faut se rendre compte de la force de la Yougoslavie.
Et cet héritage, on le voit notamment en Serbie, à travers une pratique un peu étonnante dont vous vous rendez compte sur place, c'est que les fans, lorsqu'ils font le décompte du palmarès de leurs joueurs, eh bien, ils ne comptent pas uniquement les résultats des joueurs serbes, ils décomptent aussi tous les résultats des joueurs des pays de l'ex-Yougoslavie.
Oui, voilà, c'est ça. Alors ça dit beaucoup de choses, en fait, sur la perception de la Yougoslavie. C'est une pratique qu'on retrouve en Serbie. On ne la retrouve pas dans les autres pays. En Serbie, réellement, ils disent, oui, nous, on l'a gagné. On était dedans. Et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup, on ce petit regret, c'est parce que il y avait une nouvelle génération qui était en train d'éclore au tournant des années 90. Et il y a eu les JO de 92. Alors les JO de 92, pour ceux qui suivraient pas le basket, faut imaginer que c'est le grand moment du basket américain, c'est ce qu'on appelle la Dream Team, c'est-à-dire qu'il n'y a que des stars à ce moment-là. Et en fait, à cette époque-là, dans l'équipe yougoslave, vous n'avez que des stars de la NBA également. Donc ça aurait été un peu l'Europe contre les États-Unis incarnée par la Yougoslavie. Ce qui fait que ça aurait été vraiment pour eux, symboliquement, ils auraient été en quelque sorte représentants de l'Europe. Et donc, malheureusement, ce match n'a jamais eu lieu entre la Yougoslavie et la Dream Team de la Team USA. Et beaucoup en Serbie m'en ont parlé, beaucoup m'ont dit, mais si ça se trouve, on aurait pu écrire une autre histoire. La Dream Team n'aurait pas eu cette ampleur, on aurait pu vraiment marquer l'histoire à jamais.
Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de joueurs. Ceux qui sont sur cette photo, la plupart ont la trentaine, une petite trentaine. Ça veut dire qu'ils sont nés soit juste après la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine, soit pendant la guerre. Par exemple, il y a Youssouf Nurkic. Vous êtes allé en Bosnie à Bazigovski, son village natal. Vous avez rencontré son père, Aris Nurkic. Qu'est-ce que ça représente pour lui l'ascension de son fils dans le milieu professionnel du basket? Et comment est-ce que de 1994, l'année de naissance de son fils, à aujourd'hui, lui a conçu la transmission qu'il faisait, donnait ou pas, de l'époque de la guerre à son enfant?
Oui, alors le cas de Youssouf Nurkic est particulièrement intéressant et j'en profite pour remercier le journaliste bosnien Asim Beshlia qui nous a mis en relation avec le père de Youssouf Nurkic. En fait, Youssouf Nurkic a grandi sans qu'on lui parle de la guerre. C'est son père qui était un policier, donc il m'a raconté vraiment la difficulté de la vie à cette époque-là. C'est qu'il a eu cette phrase, il m'a dit « après la guerre, on n'avait rien ». Donc vraiment, il y avait des choses toutes bêtes. Youssouf Nurkic était enfant, il n'y avait pas de couche, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien. Et donc son père avait décidé qu'il ne fallait pas parler de la guerre à son fils, parce qu'il fallait le protéger de ça. Et que rapidement, il faudrait qu'il aille dans un autre pays. Il rêvait pour lui en fait d'une carrière d'ingénieur au sein de l'Union Européenne. La Slovénie en plus a rejoint l'Union Européenne au début des années 2000. Et donc il espérait en fait que son fils aille dans l'Union Européenne, fasse une carrière, travaille là-bas et laisse derrière lui tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans le cas de la famille Nurkic, c'est que autant le père ne veut pas en parler et il est très droit, très digne dessus. C'est un ancien policier qui impose le respect. Tout le monde le connaît là-bas. C'est un géant qui de plus de 2 mètres. Et par contre, son fils s'est mis à s'interroger. Il y a même une brouille entre le père et le fils désormais qui ne se parlent plus, puisque son fils s'est impliqué politiquement, a voulu en parler. Il a porté, en 2019, il a porté un t-shirt avec les noms des martyrs bosniaques. C'est comme ça qu'il les avait appelés. Son fils s'est rendu au mémorial de Srebrenica, le lieu du génocide qui a coûté la vie à 8000 bosniaques durant le conflit. Et ça, c'est quelque chose que le père et que la génération des plus anciens, ils ont du mal à l'entendre, ils ont du mal à le comprendre. Au point que son père me disait, mais je pense qu'il est manipulé. Alors manipulé par qui, par quoi? Enfin, ça, c'est un peu étrange. Mais vraiment, on voit Youssouf Nurkic a décidé, lui, d'en parler.
Il faut aller de l'avant. C'est aussi ce que vous dit la mère de Ivica Zubac, qui lui donc est née en Bosnie-Herzégovine, qui est aujourd'hui croate. Et vous vous rendez dans la petite communauté croate de Bosnie-Herzégovine et donc auprès de sa mère, qui voilà insiste beaucoup sur l'idée que ils incarnent une nouvelle génération, qu'ils ont soldé le passé. Je cite les propos que vous rapportez dans votre reportage.
Oui, c'est ça. Pour eux, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la région donc Herzégovine. Pour situer la région Herzégovine, c'est plutôt au sud du pays, on est dans la zone méditerranéenne de la Bosnie-Herzégovine. Et en fait, là-bas, beaucoup me disent, mais oh, vous faites encore un papier dessus, mais pourquoi? On en a tellement parlé, c'est tout, il faut aller de l'avant, tous les médias nous ramènent à ça, les politiques, et à tel point qu'en fait, moi je me disais, mais est-ce qu'on n'a pas tort d'aller sur ce sujet? Est-ce qu'on n'a pas tort d'aller dessus? Et en fait, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est lorsque j'ai discuté avec Almasa Salijović, qui est une survivante du génocide de Srebrenica, qui est porte-parole aujourd'hui du mémorial. C'est le genre de personne. Vous vous sentez petit face à elle. Vraiment, elle impose le respect par son histoire. Et elle me disait, mais c'est mignon de dire il faut aller de l'avant. On aimerait tous aller de l'avant. Mais par contre, on n'a pas soldé le passé. On n'est pas revenu dessus. Et elle en voulait pour preuve qu'elle m'expliquait que du côté de la Republika Srpska, il y a un négationnisme qui se développe encore. On l'a encore entendu lors des élections qui ont eu lieu au mois de novembre. Donc le président Dodik, qui est un président nationaliste bosno-serbe de la Republika Srpska, avait été destitué par la justice. Et lors de la campagne, en fait, il a il a poussé son successeur en quelque sorte, et il avait quand même été jusqu'à comparer les Bosniaques, il les a appelés les parasites de la société de la Bosnie-Herzégovine. Pour lui, ce n'est pas possible de vivre ensemble. Et donc vous vous retrouvez dans cette situation extrêmement paradoxale que lorsque vous allez à Srebrenica, lorsque vous allez au mémorial, Srebrenica est en territoire de Republika Srpska. Et en fait, le mémorial, il y a des gens de Bosnie qui viennent. Mais par contre, pour venir, lorsque vous êtes écolier, pour venir, et vous êtes écolier en Republika Srpska, c'est extrêmement compliqué. Il faut que les directeurs des écoles fassent des démarches qui sont extrêmement compliquées, mal vues également. Et donc, de ce fait, ce qu'Almasa Saliovic me disait, c'est aller de l'avant. Oui, c'est facile quand on n'a rien perdu, c'est facile d'aller de l'avant. Et vous sentez, en fait, quand vous creusez, il n'y a pas besoin de creuser encore beaucoup, vous sentez qu'il y a encore des braises dans les cendres de la société de Bosnie-Herzégovine.
Et dans ce contexte où, en Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas le même récit qui est fait à tous les enfants selon la communauté où ils vont se trouver, sur le récit de la guerre, quand un récit est fait, comment est-ce que ces figures extrêmement populaires auprès de la jeunesse, ces figures de professionnels du basketball qui évoluent en NBA, quand eux arrivent et vont se recueillir à Srebrenica, par exemple, comme ça a été le cas de Jusuf Nurkić, qu'est-ce que ça représente à ce moment-là? Et évidemment, vous avez interrogé les gens sur l'espoir qu'ils peuvent incarner d'une sorte d'union et de réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite part d'illusion là-dedans? Qu'est-ce qu'on vous en dit?
Oui, c'est pour ça qu'il faut pas être trop naïf, être trop candide devant l'espoir que ça peut susciter. En tout cas, ce qui est sûr, et ça, Almasa Saliovic me l'avait confié, et là, c'était la porte-parole du mémorial qui parlait, c'est que le fait d'avoir des gens tels que des joueurs de basket qui touchent un autre public, qui touchent des gens beaucoup plus jeunes via les réseaux sociaux, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 90%, l'équivalent de 90% de la population des Balkans qui suivent ces joueurs. Donc lorsqu'ils font des posts dessus, évidemment que ça touche, et ça touche beaucoup plus que c'est pas le récit classique. C'est qu'il y a une défiance extrême vis-à-vis de la classe politique, donc c'est-à-dire que les gens n'écoutent pas la politique. Donc si des politiques s'emparent du sujet, ils ne vont pas être écoutés dans la société. Et donc là, en fait, avoir ces gens, ça permet de médiatiser différemment, un petit peu de médiatiser de manière moderne dans notre société, puisque de plus en plus les réseaux sociaux permettent ce lien direct. Après, ça... c'est bon et c'est mauvais côté, c'est-à-dire que Jusuf Nurkić s'est fait beaucoup d'ennemis de cette manière-là. Il est respecté en tant que basketteur en Serbie, mais plusieurs personnes en Serbie m'ont dit « Est-ce qu'il est un joueur populaire ici ?» Clairement, non. Non, c'est sûr que non.
En Bosnie, en Serbie et dans l'ensemble de la région des Balkans, il y a un phénomène qu'on voit émerger depuis quelques années et qu'on appelle parfois la yougostalgie, et qui est ce récit qu'on peut recueillir de la part de ceux qui ont connu l'époque de l'ex-Yougoslavie et qui vont en dire une nostalgie. Comment est-ce que ce sentiment nostalgique est aujourd'hui associé paradoxalement à la nouvelle génération des joueurs? Quelles projections du passé sont faites sur cette nouvelle génération?
Alors le plus bel exemple de ça, c'est Nikola Jokic, qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, le plus grand joueur du monde actuellement. Il a été élu trois fois meilleur joueur de la NBA. Alors lui, en fait, il est connu pour aimer principalement les chevaux. Dès qu'il peut, il quitte les États-Unis pour retourner chez lui. Il écoute de la musique des années 70-80. Et en fait, beaucoup d'anciens se projettent sur lui, et lui joue avec cette image, en fait, d'homme rustique, d'homme taiseux. Il se cache, il n'aime pas la lumière, Nikola Jokic. Et donc, de ce fait, beaucoup d'anciens se projettent sur lui, et beaucoup de jeunes voient une figure un petit peu tutélaire, une figure d'exemple, quelqu'un à suivre, parce qu'il incarne des valeurs qui datent d'avant. Zakuni se moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, zakuni se. Jure, ma bonne étoile, que personne ne nous séparera, personne ne peut rien faire, nous sommes plus forts que le destin. Vous parliez des années 70-80, cette chanson-là, elle date de 1989, par le chanteur Mitar Miric, qui lui est né en 1957. Et un chanteur serbe. Et cette chanson, elle n'est pas totalement inconnue des Balkan Boys. Non, absolument pas. C'est l'une des chansons qui a été diffusée à Orlando en 2020, dans la fameuse soirée dont je vous parlais, et sur lesquelles, en fait, tous les joueurs la connaissaient. Et donc, il faut imaginer un peu des joueurs certes un peu éméchés, bras dessus, bras dessous, qui sont en train de, d'avaler des grillades, comme des basketteurs de 2 mètres peuvent le faire, comme vous imaginez, d'empiler les bières, comme vous pouvez imaginer, et qui ont mis ce type de musique toute la soirée à la chanter très fort.
Merci, merci beaucoup Nicolas Skopinski. Sur les traces des Balkan Boys, enfants de l'ex-Yougoslavie et superstars de la NBA. Votre reportage réalisé avec le photographe Jérémy Lampin est paru dans le Figaro Magazine. On fera un lien sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de Terrain.
Merci à vous.
Još mi kutlo sijaj, sijaj, moja zvezdo tamice.